She's beautiful.
She's smart.
She's a fighting hellcat.
She's dynamite.
Wild Flower.
Tom, voudrais-tu nous rejoindre pour présenter ce nouvel appareil révolutionnaire que nous appelons
Radio Campus Orléans?
Ça, c'est une surprise.
88.3.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Aujourd'hui, Univox se consacre à une question de société, le handicap mental et psychique. Alors que tout le monde parle depuis le 1er mai du film Un petit truc en plus qui a touché plus de 5 millions de Français de par son approche inclusive du handicap mental, qu'en est-il réellement ? Radio Campus Grenoble s'intéresse dans cet épisode à comprendre non pas la condition médicale du handicap, mais la réalité sociale qu'est le handicap, et notamment les handicaps mentaux et psy. Quelles considérations de la société, quelles structures y font contre-pied et quelle vision de la vie en tant que jeune avec des troubles mentaux.
Univox.
Bonjour Alain, vous étiez professeur donc à la faculté de sociologie de Grenoble et nous sommes ensemble pour évoquer certains points qui ont été soulevés par vos travaux centrés sur la thématique du handicap. Donc j'aimerais commencer d'abord en parlant de santé mentale. Le sujet de la santé mentale, il se démocratise de plus en plus aujourd'hui et du moins sur les médias. Et c'est un concept assez large qui inclut le bien-être global, qui englobe aussi la prévention, la promotion du bien-être mental et le traitement des troubles. Mais on a parfois l'impression du coup que cette étiquette, elle en cache d'autres. Et du coup, qu'en est-il des troubles psychiques et des troubles mentaux ? Et ainsi, qu'est-ce que le handicap mental et handicap psychique, même si on le sait, ce sont des termes qui sont pluriels et bien différents.
Merci pour votre propos introductif. Comme tout le monde, nous avons un corps. Et ce corps a des usages pour courir, il faut avoir deux jambes, enfin, etc. Le fonctionnement de notre société se caractérise par un travail sur le corps. Il y a un corps au travail, un corps qui subit des assauts, qui peut être malade parce qu'il y a une épidémie. Et l'épidémie qui est collective, ce n'est pas la même chose que le rhume que telle personne a. Vous voyez, une utilisation des corps, évidemment, ça peut poser des questions liées à l'état de ce corps. Et c'est là qu'intervient globalement la médecine, qui dit qu'il y a des personnes qui sont des malades, et maintenant on a longtemps parlé de malades mentaux. Donc s'il y a des malades mentaux, ça veut dire qu'il y a dans nos sociétés des personnes qui décident qui est malade et qui ne l'est pas. Donc, évidemment, ça, c'est la médecine, en l'occurrence ici, la médecine psychiatrique, avec les modalités qui vont avec des traitements médicamenteux, éventuellement de l'internement, peut-être même de l'accompagnement, de l'institutionnalisation, comme on dit, et de l'accompagnement. Donc, ça, c'est une catégorie de personnes qui est connue parce qu'il y a une expertise médicale qui dit « vous, vous êtes un malade mental et vous, vous ne l'êtes pas ». Si vous voulez, en plus du handicap mental, de la maladie mentale, on commence de voir apparaître, c'est pas tout à fait nouveau bien sûr, mais on voit apparaître des troubles psychiques qui ont de multiples causes, c'est-à-dire des conditions sociales qui font que les individus peuvent subir des tas de choses et puis… se sentir mal dans leur peau. Sinon, comment expliquer la montée en puissance depuis déjà bien longtemps de toute forme de consultation psychiatrique, psychique, les psychologues, etc. Vous voyez, il y a du trouble dans les consciences, si je peux dire. Il y a des états d'âme. Et donc ça, c'est la montée, ça caractérise plutôt la montée en puissance de ces personnes qui frappent à la porte du handicap, mais qui n'ont pas, si vous voulez, une déficience corporelle patente, visible, qui altérerait leur bonne présence dans la société.
Le handicap, du coup, c'est une condition médicale, mais c'est aussi une réalité sociale, du coup. Et vous parlez notamment de la rencontre entre un corps déficient et un environnement inhospitalier. Est-ce que vous pouvez expliciter justement cette formule ?
On peut commencer par une scénette que je viens d'inventer ou dont je me sers, à savoir que quand on est valide, c'est-à-dire sur ses deux jambes, et que l'on arrive face à une marche ou à un escalier, évidemment, on ne se pose pas de questions. On peut monter les marches, on peut faire un détour. Que quand on est handicapé et qu'on arrive au pied de l'escalier, on peut mettre plus de temps pour jauger la difficulté. L'aveugle avec sa canne blanche et évidemment la personne en fauteuil roulant ne pourra probablement pas escalader l'escalier. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un environnement inhospitalier, c'est parce que, pour l'essentiel encore, cet environnement est constitué, c'est ça la métaphore de l'escalier, est constitué de barrières, que les barrières définissent des frontières. Donc le monde dans lequel nous vivons est un monde des flux, des circulations, et avec l'escalier, on se rend compte qu'il y a une inégalité d'accès à ces flux. Donc c'est en ce sens qu'il y a une discrimination faite à l'encontre des personnes handicapées, parce que moins que nous, elles ont la possibilité dans l'environnement d'accéder, de circuler. Alors évidemment, ceci n'est possible que parce que auparavant, ou simultanément plutôt, les corps sont déficients, c'est-à-dire les corps sont altérés d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a des personnes handicapées, c'est parce qu'il y a une conjonction de ces déficiences corporelles qui peuvent être innées ou acquises. Innées, une maladie génétique qui se déclenche, acquise, un accident du travail. C'est parce qu'il y a des déficiences simultanément à un environnement inhospitalier qu'on peut dire qu'il y a des personnes handicapées. Donc s'il y a un environnement inhospitalier, c'est parce que, en résumé, vous voyez, les hommes et les matériels ne favorisent pas ces flux de circulation qu'il y a entre nous.
Et du coup, comment on se construit dans une société qui ne nous inclut pas forcément ou qui nous considère différemment quand on ne rentre pas dans la norme ?
L'une des responsabilités, il y en a beaucoup, mais l'une des responsabilités des générations anciennes que je représente dans notre échange, c'est évidemment de souhaiter la bienvenue aux nouvelles générations que vous représentez. Pour s'approcher du monde du handicap, il y a un thème qui apparaît maintenant de plus en plus, qui, je pense, va prendre de l'importance. C'est le thème de l'accompagnement, qui implique évidemment des spécialistes, des professionnels pour accompagner un malade psychique en direction de l'emploi, par exemple. Dans la période récente, c'est-à-dire spécifiquement une loi de 2005, est apparue dans les intitulés juridiques, sont apparus plutôt les termes de handicapé psychique. Ce qui veut dire que la loi, c'est-à-dire la France, notre pays, reconnaît la déficience psychique. Et s'il y a cette définition nouvelle, c'est parce qu'il y a eu des travaux qui ont été élaborés. Et c'est vers ça qu'il faut arriver maintenant. Cette reconnaissance, évidemment, a eu comme conséquence que les politiques publiques, d'une façon générale, ont dû s'emparer de cet aspect. Cette action publique, elle se caractérise par de très nombreuses choses, des financements, des textes de loi, et dans ces textes de loi, des incitations pour faire en sorte que tous les acteurs de la vie collective, vous voyez, puissent, autant que faire se peut, bon accueil aux personnes handicapées, donc plutôt des incitations que des obligations.
Comment améliorer l'inclusion des personnes donc handicapées, mentales, psychiques, etc. Et du coup, comment repenser la place du handicap dans nos sociétés ?
Alors la réponse cohérente avec ce que je vous ai proposé auparavant est celle-ci, c'est que s'il y a un centre et une périphérie, le centre c'est la population française, la périphérie c'est les personnes handicapées, alors si nous souhaitons mieux les accueillir, alors c'est l'accompagnement, c'est-à-dire cet intermédiaire entre centre et périphérie, mais évidemment ça implique des choix collectifs, ça implique des aides collectives, ça implique des budgets pour faire en sorte que ce lien soit plus affermi, plus structurant.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Faire de notre société un chez-soi pour tous, j'ai l'impression que c'est l'objectif de la plupart des associations qui touchent de près ou de loin le secteur du handicap. De plus, historiquement, les associations, elles se construisent pour répondre à des besoins qui ne sont pas forcément remplis par l'État ou d'autres organisations. Et je vois que la reconnaissance et la prise en charge de ces différences, et notamment du spectre du trouble autistique, elle se fait, et donc par des structures notamment associatives comme GEM Atypique. Alors, bonjour Mathieu Guillot.
Bonjour.
Je vais du coup vous laisser vous présenter et présenter la structure GEM Atypique.
Bonjour, eh bien, je suis ravi. Mathieu Guillot, je suis président actuel de l'association Le GEM, GEM Atypique, ATYPIK. Ça fait depuis 2016 que cette association existe. Elle a vu le jour au cours de quelques discussions dans le restaurant L'Atypique et compagnie, d'où le nom un peu similaire. Et à l'époque, ils ont vu qu'il y avait un besoin, effectivement, de se retrouver entre personnes qui se posent des questions ou qui ont déjà un diagnostic de TSA, par exemple. Et donc, les GEM répondent tout à fait à ces questions et à ces besoins. Et ils sont là, bien sûr, pour créer du lien social. C'est un peu, moi, j'aime bien dire que c'est une oasis dans un désert. Voilà. Et donc on peut y faire bien sûr toutes sortes d'activités ludiques, mais aussi beaucoup de groupes de parole, de soutien bénévole sur des petites tâches au quotidien. On a élaboré un groupe WhatsApp qui nous aide beaucoup quand on n'est pas au local et quand on n'arrive pas forcément à sortir de chez nous. Et donc les GEM ont une subvention de l'ARS qui permet d'employer quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est à peu près accueil administratif, gestion des mails, gestion des appels, des SMS et ce genre de choses. Et l'association a un conseil d'administration, voilà, de 10 membres pour l'instant, et d'un bureau, voilà, qui permet de faire en sorte de planifier les décisions prises par le CA, et le CA qui planifie les décisions prises en AG par les membres de l'asso.
Ok, trop bien. Alors juste avant de rentrer dans des questions plus précises, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que ce que tu l'as dit, TSA? Pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas.
TSA, donc trouble du spectre autistique. On sait maintenant un peu plus, grâce à l'évolution des sciences et de la psychologie, que l'autisme est un spectre et donc plus précisément, ça peut avoir beaucoup de formes et toucher beaucoup, beaucoup de personnes. Comme la plupart des troubles, on va dire, psy, on a tous un peu d'autisme en nous, sauf que chez les personnes avec un TSA, ça prend tellement de place dans leur quotidien que ça devient un handicap en général. Voilà, donc il y a autant d'autisme que d'autistes. Mais en général, on retrouve des branches concernant les problèmes de communication, se lier dans le social. Et aussi certains troubles, on va dire, des fonctions exécutives au niveau cognitif.
Ok. Je voulais savoir, du coup, les bénévoles, enfin les volontaires, en tout cas ceux qui sont engagés dans l'association, ils ont quel âge, enfin, c'est quel profil en fait? Est-ce qu'il y a un profil type?
C'est une bonne question parce que pour l'instant, ce qui ressort le plus dans les bénévoles, on va dire au niveau du conseil d'administration par exemple, moi j'ai 27 ans, mais je dois être le plus jeune. Et on a d'autres membres qui ont autour, on va dire, de 35-40 ans. Je pense qu'ici, on a beaucoup de membres autour de cet âge-là, pour la plupart, qui ont été diagnostiqués tardivement, en fait, et qui ont eu une vie, en fait, avant d'être autiste, d'avoir le diagnostic, et qui sont en mesure de pouvoir aider et de s'entraider dans ce groupe d'entraide mutuelle.
Et du coup, comment vous pourriez faire pour justement donner envie à certains qui sont dans cette, dans cette vie-là et qui ont entre 20 et 30 ans.
Ben, sincèrement, le GEM est ouvert à toute personne de plus de 18 ans, même un peu en dessous. Parfois, on accepte des petites visites pour voir un peu comment on se sent ici. Mais en fait, l'autisme, ça peut toucher bien sûr les personnes qui ont un TSA, mais ça touche aussi les personnes qui les entourent. Bien souvent, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines sont, en tout cas dans le GEM atypique de Grenoble, sont acceptés et bien sûr peuvent venir aider, se renseigner, peuvent trouver du soutien et même proposer des petites activités ou voilà. Mais très souvent, je pense que à la vingtaine, on se pose beaucoup de questions sur soi. On n'a peut-être pas eu le temps avant de se les poser. Et parfois, on peut se demander si notre singularité ne serait pas due à un autisme, par exemple. Et donc, je pense que le GEM est un des premiers lieux où les jeunes peuvent venir se renseigner, tout simplement, et poser, rencontrer les gens qui le sont et poser les questions qu'ils ont envie de poser, quoi.
Votre objectif, il est donc de contribuer à la réinsertion socio-professionnelle à travers divers ateliers. Est-ce que, bon, avant l'entraide mutuelle, est-ce que vous pouvez me parler de ces ateliers ?
Les ateliers pour la réinsertion socio-professionnelle, on va travailler sur la communication, sur la posture parfois, durant les ateliers de théâtre, où justement on travaille sur la voix, la posture, l'espace, et puis, l'expression. On essaye de s'exprimer dans nos ateliers, on a les ateliers d'écriture par exemple, on peut s'exprimer du coup par écrit. On a des ateliers d'art créatif animés par, en général, des art-thérapeutes. L'art est aussi un biais par lequel on peut s'exprimer et aussi s'affirmer dans la société. Et puis après, bien sûr, on est en lien avec beaucoup de structures à l'extérieur, comme le REPSI, Réseau Handicap Psychique. Il y a le CRA aussi, le CHU et puis beaucoup d'autres instances avec lesquelles on va travailler et on va correspondre pour accompagner au mieux les gens par la suite. Parce que le but d'un GEM, effectivement, c'est d'aller faire du lien social, c'est de casser l'isolement, on va dire, qu'on pourrait avoir pour certains et pour certaines. Mais après aussi, c'est de les accompagner, ces personnes-là, vers les structures qui peuvent les réinsérer socialement, professionnellement, mais les réhabiliter aussi, et se renseigner peut-être plus profondément sur ce que c'est, sur leurs troubles.
Ok. Tu parlais de s'affirmer dans la société. Est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation au public qui n'est pas forcément concerné par le TSA ou est-ce que c'est vraiment de l'accompagnement et de l'entraide mutuelle ?
Ben, c'est une bonne question parce que non, en réalité, effectivement, on a cette intention effectivement d'être dans les espaces publics. Il y a eu la semaine de l'autisme récemment, la journée mondiale de l'autisme aussi, on était sur Grenoble. Et puis il va y avoir le mois de l'accessibilité en fin d'année, mais au final c'est de novembre à décembre, et on va avoir une représentation là-bas, une petite place, un petit espace dans le musée pour pouvoir justement exprimer et nous montrer.
Comment vous voyez l'avenir de ce secteur-là, si on peut appeler ça un secteur ?
Ben, je pense que c'est quelque chose qui est en développement. Je pense que plus largement, la paire aidance, c'est de plus en plus reconnu. On a des diplômes d'État maintenant, on a des formations. Et justement, je pense que c'est quelque chose qui est primordial entre vraiment le soin médical et peut-être une errance diagnostique ou des questionnements personnels ou des troubles, enfin voilà, juste des difficultés personnelles, et ben justement, ces associations, ces groupes d'entraide mutuelle, ces associations de père aidants, autres, je pense qu'elles ont, elles font partie de la chaîne du rétablissement, de la découverte de soi et du développement aussi personnel, l'affirmation, etc., la compréhension.
Pour moi, c'est tout bon, mais si tu veux rajouter quelque chose, tu peux.
J'ai pas beaucoup parlé des groupes de parole qui se font ici, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très importants. C'est des lieux d'échange et d'écoute vraiment bienveillants avec des bénévoles qui voilà, c'est pas des intervenants extérieurs qui sont là. C'est vraiment nous-mêmes qui gérons un peu nos groupes de parole comme on le sent. Et ils fonctionnent très bien et c'est je pense grâce à eux aussi qu'on arrive beaucoup à toucher nos adhérents et nos nouveaux adhérents. Et je pense que c'est un exercice qu'on pourrait bien sûr faire dans d'autres structures et même succinctement dans d'autres lieux. Mais je pense que les échanger sur nos sensibilités, sur nos émotions, c'est bien sûr au sein des personnes autistes, c'est important, primordial, parce que parfois on a du mal à les exprimer ou alors elles sont mal lues par notre entourage.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce super entretien.
Avec plaisir.
C'était très riche.
merci à toi, merci à vous d'être venu, de vous renseigner là-dessus. Je pense qu'une société qui s'occupe de ses minorités est une société qui va vers plus de bienveillance et de bonheur en général.
Jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Je suis rentrée en lien avec Noah, un jeune de 19 ans qui est engagé depuis 8 mois à Messidor, qui est un ESAT situé à Saint-Martin-d'Hères, proche de Grenoble. Un ESAT, ça signifie établissement et service d'aide par le travail. Il offre la possibilité aux personnes en situation de handicap d'accéder à un emploi tout en bénéficiant d'un soutien médico, social et éducatif.
Univox. Univox.
Eh ben moi, c'est Sarah Winoa. Voilà. J'ai fait quelques stages dans le monde normal. Après, j'ai été rattrapé par une organisation qui s'appelle l'ITEP de Vars, En gros, ça va aider les jeunes à construire leur projet professionnel, tout en les accompagnant. C'est un accompagnement au-delà de l'école. C'est pour ceux qui ont des difficultés en cours ou même des troubles psychiques. Ils vont leur apprendre des métiers, leur montrer, par exemple, les différentes facettes du monde, les stages, tout ce qui est administratif, même mettre en stage, avoir un suivi extérieur après.
Et du coup, toi, tu es engagé là, à Messidor. Comment tu vis cette expérience ?
Moi, ça va, je l'ai plutôt bien accepté. Pour certains, ça peut être dur. Moi, au début, j'avais un peu d'appréhension parce que je me suis dit, tiens, ça veut dire que je ne suis pas normal. Mais en fait, j'ai préféré l'accepter parce qu'en soi, je vis avec. En fait, je suis comme un humain. Je parle, je bouge. Puis je ressens pas je ressens pas de mauvais côtés, etc. Au contraire, être accompagné, etc., ça m'a beaucoup aidé. Et même, je vois qu'il y a des gens qui sont là pour mon bien, donc... Ça me va.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a emmené en fait à t'engager dans un projet professionnel ? Comment t'en es arrivé là ?
En fait, au début, j'étais en cours comme normal. J'avais la vie lambda qui n'allait pas très bien. Du coup, j'ai commencé à intégrer l'ITEP justement. Alors, j'ai intégré un ITEP un peu plus pour les jeunes où là, ils faisaient des cours un peu plus soutenus et ils faisaient plus d'activités. Plus j'ai grandi, j'ai commencé à aller dans un autre ITEP où ils mettaient plus les jeunes en situation de travail. Puis après, j'ai fait quelques stages dans le monde extérieur. Et j'ai compris que c'était pas trop ce que j'aimais faire. C'était un peu dur pour moi. Puis après, j'ai mes éducateurs, parce que j'étais suivi par des éducateurs qui m'ont lancé l'idée de justement tester pour voir si j'avais pas potentiellement droit à une reconnaissance RQTH ou même le milieu accompagné. Et j'ai tout de suite été accroché à ça parce que je me suis dit que c'est vrai que c'est plutôt ce qui me tenait à cœur d'être suivi, justement, parce que dans le monde ordinaire, ce qui me manquait, c'était plutôt le suivi. Parce que j'étais plus lâché seul à faire tout seul plutôt qu'à Messidor.
Et du coup, quelle est ta place là, du coup, à Messidor ? Qu'est-ce que tu fais concrètement
Là, moi, actuellement, à Messidor, je suis en hygiène et propreté. Donc, ce qui veut dire qu'on va sur des sites orange, on nettoie des sites orange. On a différents partenaires comme FH, Intersport, on va chez eux.
Et par rapport aux difficultés qui sont les tiennes, qu'est-ce que tu trouves intéressant de partager là, dans cet espace de parole ?
Tout d'abord, ce que je dois souligner, c'est que malgré qu'il y ait des situations compliquées, comme les cours, par exemple, moi, les cours, j'étais pas très bon dedans, et franchement, tout ce qui était relation, pareil, mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné, et justement, j'avais envie de m'en sortir d'une manière différente qu'au cours, justement, je me suis dit, bah, écoute, c'est pas mon point fort, qu'est-ce que mon point fort, finalement ? Et après, j'ai découvert que j'avais telle qualité, je me suis dit, bah, tiens, je vais plutôt exploiter ça. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui fait sens pour toi aujourd'hui ?
En fait, moi, ce qui me motive, c'est actuellement avoir un travail, etc., pouvoir vivre normalement, finalement, avoir une vie stable, etc. Puis voilà, parce que moi, j'ai pas envie de... C'est vrai que j'aurais pu me renfermer sur moi-même, mais c'est pas vraiment l'image que j'avais envie de montrer à mes proches et même à moi-même. Puis maintenant, je vise une amélioration. Hein, voilà. Si on parle de mon avenir à moi, je vais plutôt viser sur... D'abord, petit à petit, retourner vers le monde ordinaire. Et puis après, voir peut-être des formations dans des domaines qui pourraient me plaire. Et je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi à des vrais domaines qui pourraient me plaire, mais bon, je pense que je vais d'abord essayer d'aller vers le monde ordinaire. Et puis voilà.
Du coup, t'as beaucoup dit ordinaire. Qu'est-ce qui te démarque des autres ?
Peut-être plus un retard psychique. J'ai plus de difficultés dans certains domaines. Sans le vouloir même par moment. Puis voilà, je pense que ça, c'est un peu ce qui me différencie. Mais non, à part ça, je suis assez bon dans... Je veux dire, je suis dans la norme. Ouais, ce que je veux dire, c'est... si, par exemple, il y a des gens quelconques qui sont en difficulté, qui pensent ne pas pouvoir s'en sortir, il ne faut pas abandonner, il y a toujours des possibilités. Il faut prendre tout ce qui nous déduit. Par exemple, c'est toutes ces aides qu'on peut avoir, il faut les... Faut être opportuniste, faut tout saisir. Surtout ne pas abandonner, il y a toujours des endroits où vous pouvez vous sentir vous-même. Ouais.